Le débat du jour, Céline Pellarin.
Bienvenue dans ce nouveau débat sur RFI. Au deuxième jour du Conseil européen de Bruxelles, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne hors Royaume-Uni lancent donc la deuxième étape des discussions du Brexit. Les 27 ont confirmé que des progrès suffisants avaient été accomplis sur les modalités du divorce. La première ministre britannique a, elle, été applaudie par ses homologues européens à Bruxelles pour avoir mené les négociations jusqu'à cette première étape. Malgré ce premier succès, cette ouverture des négociations de la deuxième étape du Brexit, Theresa May est pourtant passablement affaibli. Le Parlement britannique a en effet voté il y a deux jours un amendement qui lui permet désormais d'obtenir un droit de veto sur l'issue des tractations de ce Brexit. Dans ce cas-là, le gouvernement britannique pourra-t-il tenir les promesses déjà faites? C'est la question que nous posons dans ce débat.
RFI.
Et avec moi ce soir, nous sommes avec Elvire Fabry. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'action extérieure de l'Union européenne et des négociations. Nicole Fontaine est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancienne présidente du Parlement européen entre 1999 et 2002, également auteur du livre Brexit, une chance. C'est aux éditions Auteur du Monde. Merci à toutes les deux d'être avec nous présentes. Alors, ce Brexit qui se présente au 29 mars 2019, il y a encore quelques mois à venir, mais déjà la deuxième phase donc est officiellement ouverte par les 27 dirigeants de l'ONU, de l'Union européenne. Les progrès ont été suffisants, disent-ils, mais les négociations s'annoncent très difficiles. Est-ce qu'elles seront aussi difficiles, plus difficiles, moins difficiles que ce qu'on a connu jusqu'à présent, selon vous, Nicole Fontaine?
Bon, moi je serais tentée d'abord de remettre cet accord dans son contexte. Faut quand même pas oublier que l'enjeu est historique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un pays avec lequel nous avons des liens séculaires, un pays qui était membre de l'Union européenne depuis 1973, 34 ans, qui va quitter l'Union européenne, et la nécessité de trouver une nouvelle relation. Alors, je dirais que, bon, c'est un accord, de mon point de vue, en trompe-l'œil. Mais qui était nécessaire.
En trompe-l'œil, selon... Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par trompe-l'œil?
On y reviendra. Rempli d'ambiguïté. Mais c'est un accord qui était nécessaire, politiquement. Parce que pour passer à la deuxième phase, compte tenu du timing qui est extrêmement serré, vous venez de le rappeler vous-même, il faut absolument qu'on ait terminé en mars 2019.
C'est demain.
Ça veut dire, c'est demain, exactement. Si nous ne parvenions pas, à la fin de cette année 2017, à boucler la première phase, puisque fort opportunément Michel Barnier avait distingué les deux phases, l'accord de divorce, et ensuite bâtir une nouvelle relation. Si on ne parvenait pas à terminer la première phase...
On ne pouvait pas entamer...
On ne pouvait pas.
De toute façon, voilà. La deuxième phase.
Et du coup, on préjugeait de l'avenir dans une situation qui quand même est extrêmement importante. Alors, on y reviendra certainement, bon, sur les trois points... L'accord est ambigu. La facture financière, bon.
Il y a un écart entre Bruxelles,
oui, bon,
qui
ça,
dit 60 milliards d'euros,
exactement.
Londres qui dit plutôt entre 40 et 45 milliards. Donc c'est,
tout à fait. Le deuxième point de l'accord, qui est la garantie donnée aux citoyens, aux 3 millions de citoyens qui habitent, qui résident au Royaume-Uni.
Européen.
Bon, ça, je pense que... Enfin, c'est pas clair, c'est pas parfaitement clair. On a fait une petite concession sur la juridiction qui contrôlera, avec la Cour de justice de l'Union européenne, mais la grande ambiguïté, c'est évidemment la frontière irlandaise.
Cette frontière qui est vraiment, c'est l'épine dans la rose, pas anglaise, mais britannique en tout cas, sur ce point-là.
Exactement. Ah, et là, vraiment, on est en droit d'être inquiet. Et je crois que c'est raisonnable, compte tenu de tout cela, bon, de se dire, on n'enterre pas l'avenir, on ne préjuge de rien, et on va s'atteler, à partir de mars prochain, à la deuxième partie de la négociation, c'est-à-dire la nouvelle relation.
Donc là, ce cas de l'Irlande, c'est vraiment ce qui a un petit peu submergé cette actualité, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que ce point-là, en tout cas pour les néophytes, que ce point-là devienne le plus important, en fait, dans ces trois points, et qu'il soit le plus difficile, en fait, à négocier. Il faut quand même le rappeler, cette frontière terrestre entre donc l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, c'est ce qui a permis l'arrêt d'un conflit qui a duré 30 ans, donc c'est pour l'Union européenne non négociable. Londres a donc cédé en partie, mais il y a un dirigeant européen qui a annoncé que ça allait revenir hanter les négociations pour le deuxième round. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment venir hanter avec cette question irlandaise, Elvire Fabry?
Oui, parce qu'en effet, sur les trois volets de l'accord qui vient d'être conclu dans le cadre du Conseil européen de ces deux derniers jours, en effet, sur la question financière et la question du statut des citoyens, sont les deux volets qui ont le plus avancé. Mmh. Il y a des éléments qui doivent être précisés, mais toute l'actualité avait été occupée ces derniers temps par la question financière. Ils se sont mis d'accord sur les règles du jeu. Maintenant, il va falloir fixer les montants. Mais les règles du jeu sont là, donc on a beaucoup avancé. Sur la question irlandaise...
On a beaucoup avancé parce que c'était le plus évident, parce que c'était là où on a le plus travaillé et que finalement on a un petit peu mis de côté cette question irlandaise. C'est pour ça qu'on ça a le plus avancé sur les deux autres points.
Oui, puis que les questions sont très concrètes. Il y a sur la question de la protection du droit des citoyens, il y a un intérêt réciproque à la fois pour les citoyens européens qui sont au Royaume-Uni et la réciproque est vraie pour les Britanniques, le million de Britanniques qui se trouvent dans l'Union européenne. Donc il restait des petites questions techniques sur la question du regroupement familial, le transfert des droits sociaux,
la question
de la Cour européenne de justice, qui était le point le plus épineux. Oui. Donc ça, c'était une question, mais ça y est, qui a été en tout cas résolue pour une période donnée d'une transition de 8 ans. Sur la question financière, c'était une question symbolique, puisque les premières déclarations...
La fameuse facture du Brexit.
Voilà, on entendait encore Boris Johnson dire on ne paiera rien, il n'y a pas de...
Alors que ça correspond à des engagements... C'est plus que symbolique quand même. N'oubliez pas le fameux « I want my money back » de Margaret Thatcher et le chèque de ristourne. C'est quand même un contentieux, le contentieux financier est quand même ancien.
Oui. Il y a une symbolique qui est... Il y a quelque chose de très
sensant sur cette question-là. Qui ont fondé leur empire aussi sur le commerce, il faut le rappeler. Donc le rapport peut-être aux transactions financières est important, en tout cas dans la culture britannique.
Oui, mais quand on tient compte de l'impact qu'aura l'accord de partenariat à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au-delà de la sortie du Royaume-Uni, les nouvelles relations qu'on va devoir établir, selon qu'on obtient un bon accord ou pas, ça aura un impact beaucoup plus important sur l'évolution de l'économie britannique, parce que l'économie britannique est encore plus dépendante du marché unique européen que les 27 États membres ne le sont de l'économie britannique. Donc c'est vrai que cette question financière, elle est de l'exit, il faut la relativiser par rapport à l'impact total qu'aura cet accord final. Mais alors sur la question irlandaise, en effet, comme vous venez de le dire, c'est une question très sensible qui renvoie au conflit des années de 68 jusqu'à 98. Mmh. Il faut voir qu'on a affaire entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande à un espace totalement intégré d'un point de vue humain, d'un point de vue économique. Mmh. Les citoyens peuvent circuler, les biens circulent, ce sont les animaux qui traversent à travers les champs. Ça remonte à un accord de circulation.
Oui, le fameux 1998, accord, oui.
Avril. Même avant ça, à l'accord de circulation, la zone de circulation commune qui remonte à l'indépendance de la République d'Irlande et qui a donné lieu à des droits pour les citoyens de part et d'autre, qui sont non seulement des droits de libre circulation, mais des droits politiques, des droits d'accès aux prestations sociales, enfin qui sont très très poussés. Et là-dessus vient en effet se greffer l'accord du Vendredi Saint et les 142 accords qui lient intensément
cet espace. Et qui augmente d'autant la symbolique autour de cette frontière, justement.
Absolument. Et l'enjeu, c'est de ne pas rétablir une quelconque frontière qui puisse raviver les
conflits, qui puisse
être un problème aussi économique, notamment pour le secteur agricole, qui est très intégré. Et alors là, sur cette question-là, en effet, tout s'est précipité la semaine dernière autour de l'idée éventuellement de déplacer la frontière, le contrôle sur la mer. Et ça a recentré le débat sur la question de l'alignement réglementaire, qui est au cœur de la problématique du Brexit et des négociations à venir, des négociations d'accords commerciaux.
Nicole Fontaine, sur cette frontière donc entre, on le rappelle, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, est-ce que Theresa May pensait vraiment que ça allait lui poser un problème? Elle s'est retrouvée face à un mur, finalement, face aux unionistes irlandais.
Elle n'a pas pensé que les unionistes allaient être aussi fermes pour exiger qu'il y ait une frontière et qu'il n'y ait pas de divergence réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord.
Ça a vraiment été une surprise dans les négociations.
Elle ne s'attendait pas, à mon avis, à une réaction aussi dure. Et elle a pensé donner dans le flou en disant, bon, il y aura une frontière, mais qui ne sera pas vraiment dure. Autrement dit, une frontière qui n'en est pas vraiment
dure.
Mais s'il n'y a pas de frontière à ce moment-là, il n'y a pas de Brexit.
À vrai dire, sur cette question irlandaise, la question reste quand même complètement ouverte, puisque d'une part, à l'heure actuelle, le gouvernement britannique maintient sa position de vouloir sortir du marché unique et de l'union douanière, mais par ailleurs, dans l'accord qui vient d'être signé, il s'engage à ne pas rétablir de frontières et à ne pas rétablir que ce soit une frontière, un problème justement d'alignement réglementaire entre la partie d'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, ni de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc pour le moment, la quadrature du cercle n'est pas trouvée.
Et moi, je dirais peut-être, sur fond de rêve d'Irlandais, de certains Irlandais, d'une réunification.
De retirer totalement la frontière.
Je suis convaincue qu'au fond d'eux-mêmes, de la même façon qu'au moment des deux Allemagnes, en chaque Allemand, il y avait un rêve qui sommeillait, qui était celui de la réunification, il est fort possible que chez beaucoup d'Irlandais, ce rêve existe. Et donc tout cela est extrêmement compliqué.
Et c'est ce qui a provoqué également cette tension avec ses alliés, en tout cas à Theresa May, les unionistes irlandais. Elle s'est confrontée à ce mur-là parce qu'il y avait cette culture et cette idée, ce rêve dont vous parlez.
Oui, je pense aussi, mais il faut quand même aussi bien voir et dire que aujourd'hui, la Grande-Bretagne souffre.
Économiquement.
Le patronat britannique est extrêmement inquiet. Il est inquiet d'abord de voir le ralentissement des investissements, de voir l'inflation, de voir les risques de délocalisation. Bon, Madame McGuinness parle de 10 000 emplois perdus. En réalité, il y en aura beaucoup plus. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à faire leur plan de délocalisation. Donc tout cela est une inquiétude qui fait que le patronat britannique demande ardemment une période de transition de deux ans à partir du moment où le Brexit sera effectif.
Mais c'est une
ce qui est très intéressant, c'est de
transition
qui sera obtenue.
Période de transition qui sera bénéfique plus finalement pour l'Union européenne que pour l'Allemagne.
Non, qui serait plus bénéfique pour les entreprises britanniques, leur permettant de s'adapter.
Alors au niveau politique, en revanche, ce serait pas bénéfique pour Londres.
Non,
du tout, parce que Londres n'aurait plus de représentation politique.
Oui, mais ils la demandent. Ils sont très inquiets.
Et
aujourd'hui, la situation britannique est difficile.
Et le patronat britannique, est-ce qu'il a été rassuré par ce deuxième round qui s'ouvre là de négociations et qui va porter justement sur le commerce?
Il semble qu'il ait été rassuré.
Elvire Fabry.
Toutes les entreprises exerçaient une pression de plus en plus forte gouvernement britannique pour qu'on puisse avancer vers cette discussion sur l'accord de transition.
Avant la fin 2017.
C'est-à-dire que il reste maintenant 10 mois pour se mettre d'accord, pour finaliser cet accord d'exit et les modalités de cette période de transition. Alors, la position européenne des 27 est très claire là-dessus. Ça ne peut être, on ne va pas se mettre à négocier la période de transition pour se permettre de gagner du temps sur la négociation à venir. Donc il faut que ce soit le maintien du statu quo. Ça veut dire que c'est le Royaume-Uni continue à faire partie du marché unique, de l'union douanière, de toutes les institutions, les agences européennes.
Mais c'est vraiment la fin du Brexit dur, alors, dans ce cas-là. C'est la défaite des tenants de cette Brexit.
Non, parce que ça ne concerne que la période de transition. Alors, toute la problématique, c'est est-ce que c'est tenable sur une période courte de 2 ans, et c'est plus facile de le faire accepter politiquement, si je puis dire, au Royaume-Uni. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut tenir sur un laps de temps de 2 ans et mener à terme la négociation sur la suite, sur l'accord final, c'est beaucoup moins certain. Et là, la problématique est très différente, parce qu'on ne peut pas s'éterniser dans un statut qui offrirait tous les avantages, d'une part tous les avantages de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, sans prendre part aux décisions, et par ailleurs, pour les Britanniques, de se dire, mais finalement, ce Brexit, quand est-ce qu'il a lieu?
Michel Barnier et son équipe ont eu tout à fait raison, dès le départ, de bien poser la ligne rouge. C'est-à-dire, aucun État qui sort de l'Union européenne ne pourrait se retrouver avec des avantages plus importants que lorsqu'il est membre.
À l'intérieur,
car
évidemment.
Sinon, évidemment, c'est la dislocation de l'Union européenne. Et là, manifestement, les 27 ont très bien compris le risque, et c'est la raison pour laquelle le principe de la période transitoire n'a pas été décidé expressément. C'est en janvier qu'on va négocier sur cette fameuse période de négociation, de transition. Il n'est pas évident que ce soit finalement une bonne affaire, parce que les marchés financiers n'aiment pas l'insécurité.
Et on ne peut pas faire de business.
Au fond, 2 années de plus, bon, qu'est-ce que ça donnera? Bon, la question est de savoir, est-ce que Mme May va revenir sur ses propres lignes rouges?
Oui, parce que,
sont
politiquement, est-ce qu'elle y serait
forcée? Non accès au marché unique et non accès à l'union douanière.
Parce que là, elle se présente vraiment en mauvaise posture.
Et elle n'a pas précisé. On ne sait pas ce qu'elle veut aujourd'hui.
Elle en est où, Theresa May, là, actuellement? Parce que, on rappelle quand même que le Parlement, donc, se vient de se doter d'un droit de veto au moment où le Brexit sera signé, donc il pourra dire non. Est-ce que du coup Londres devra revenir sur ses promesses? Est-ce que ça pourrait mettre fin
totalement? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accord. Que le Royaume-Uni est devenu un pays tiers.
Donc dans ces cas-là, on pourra négocier alors un accord commercial. Parce que, rappelons que l'Union européenne ne négocie qu'avec des pays tiers.
Oui, absolument.
Donc on pourrait penser
à... Exactement. Et ça ne pourra commencer que lorsque la Grande-Bretagne sera devenue un pays tiers. Ça aussi, c'est un point très important.
Et c'est un point qui pourrait précipiter la chute de Theresa May?
Je crois que vous savez, dans cette affaire-là, la situation est quand même, encore une fois, historique. Et il ne faut pas chercher des gagnants, des perdants. Ce qu'il faut
pas de gagnant, pas de
essayer,
perdant.
À mon avis, non, je pense qu'il faut que nous essayions tous à arriver à la meilleure solution, à la fois pour l'Union européenne et aussi pour le Royaume-Uni, mais sans qu'il y ait davantage, bien évidemment, qui les mettrait en avantage par rapport aux autres pays. Je pense que l'intérêt général, ne serait-ce que l'intérêt du négoce, l'intérêt économique, et tout de même qu'on s'entende. Je ne sais pas, je pense qu'on est d'accord et qu'on arrive quelque part.
Il y a un intérêt de part et d'autre, en effet, à obtenir un accord pour minimiser l'impact du Brexit sur l'économie, sur les
citoyens.
Mais
mondial, au-delà de... Nous sommes sur RFI, et tous les pays nous regardent et regardent ce qui va se passer. Avec beaucoup d'intérêt et une certaine inquiétude.
Là, ce qui est certain, c'est qu'avec ce vote du Parlement britannique qui engage Theresa May à soumettre l'accord final à un vote du Parlement, d'une certaine façon, tient un petit peu encore en otage l'issue de cet accord. Et on n'est pas à l'abri, en effet, de ce qu'on appelait la chute de la falaise, le retour au statut OMC, et qui serait le plus négatif de part et d'autre. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça peut créer aussi une évolution, accélérer un petit peu une maturation, une clarification du débat politique sur la scène britannique. C'est-à-dire que pour le moment, le parti travailliste a été relativement discret. On n'entend pas Jeremy Corbyn prendre des positions très très claires pour le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique et l'union douanière. Donc ce sont des choses qui peuvent éventuellement aussi bouger un peu dans les mois qui viennent et aider à faire évoluer les discussions sur les négociations après sortie.
Donc justement, on peut en parler de ces contacts exploratoires sur la future relation post-Brexit. Ça va commencer donc là dans les prochains mois. Donc déjà, l'Union européenne et Londres commencent à anticiper. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même optimistes sur les négociations commerciales.
Alors, moi, vous me permettrez d'introduire une réflexion. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, les responsables de l'Union européenne se préoccupent au moins autant d'organiser la vie à 27. Autrement dit, repenser l'Europe. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi avons-nous eu cette désaffection des peuples, que bien sûr nous déplorons l'une et l'autre? Comment prendre conscience des erreurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire maintenant, pour refonder l'Europe? Et là, vous voyez, par exemple, on a acté à ce Conseil les progrès sur la défense européenne. Très important.
Donc ça
on
fait avancer acté, finalement le Brexit, qui est quelque chose de très négatif au début.
La naissance de la structure permanente, structure permanente qui va permettre d'avancer très concrètement dans le domaine de la défense. Dans le domaine de la zone euro, il y a des propositions de la Commission. Bon, il y a des divergences entre la position française et la position allemande, mais malgré tout, là aussi, on va avancer. Et on avance sur des sujets dont on n'aurait jamais pu imaginer
donc
qu'on aurait
chose
pu les mettre sur la table.
Malgré tout, ce Brexit qui a fait tellement peur et qui continue de faire trembler certains
et il faut
est une chose positive.
Il ne se limite pas à la nouvelle relation avec les Royaumes-Unis, si importante soit-elle, mais également à refonder l'Europe et à faire rêver les citoyens
Merci
à
beaucoup.
Nouveau d'Europe.
Nicole Fontaine et Elvire Fabry d'avoir été avec nous